Radio Estable.
Morning Edition from NPR.
Sí, sí, Santito de House.
Radio de Rosana Piperi.
Lo que se reproduce que hace en la radio.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène dans un village de Palestine qui a monté des panneaux solaires et puis vu détruits ces panneaux solaires. Un village qui essaie de se développer, mais avec des sous de l'Europe dans un secteur contrôlé par l'armée israélienne. Vous verrez, c'est toute une histoire. 18h40, l'actualité en série, l'environnement dans tous ces états. Vous verrez que la taille n'est pas si importante qu'on le dit quand on parle du Mont Blanc. En revanche, il devient vert. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. La revue de presse des correspondants de France Inter avec des Italiens pas remis de leur absence au mondial de foot et un jeune russe qui croyait bien faire aujourd'hui menacé. 18h55, l'édito du journal Le Monde, c'est Sylvie Kaufmann avec l'affaire Weinstein. Suite, mais justement, quelle suite avant cela? Avant cela, alerter les bébés pour sauver le climat s'il fallait arrêter de faire des enfants. Heureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Il y a quelque chose de tabou à poser la question, mais depuis cet appel des 15 000, ces scientifiques du monde entier qui ont publié cette urgence à sauver une planète qui exempte, depuis cet appel, donc l'idée tourne et elle fait débat. Et si on était trop nombreux, et si Malthus avait raison, et si notre survie passait par une limitation de la population? Bonsoir Jacques Véron.
Bonsoir.
Vous êtes démographe, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INED. Et je dis question un peu tabou, parce que toujours quand même, parce que limiter la population, ça veut dire politique nataliste, ça peut nous ramener aussi, il y a de sinistres histoires de stérilisation forcée, et ça a existé dans le monde, on y reviendra peut-être. Est-ce qu'on peut réellement, d'abord, baisser la courbe démographique mondiale? Est-ce qu'on peut décréter, même si on voulait le faire, est-ce qu'on peut décréter de baisser la courbe démographique mondiale?
Non, je crois pas. De toute façon, on peut pas de manière immédiate. Il faudrait au moins attendre 30 ans. Si la fécondité du jour au lendemain était très basse, la population continuerait de croître et dans les évolutions actuelles, elle dépasserait 9 milliards d'habitants en 2050. Dans tous les cas de figure.
De toute façon, quoi qu'on fasse.
Oui, avec une fécondité basse. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut avoir une fécondité basse généralisée? Pour moi, la réponse est non. Si, je veux dire, par une politique antinataliste. Alors, il y a bien sûr l'exemple chinois, mais c'est un exemple complètement unique, puisque l'Inde essaie de limiter la croissance de sa population depuis 70 ans, à peu près. Mais en restant avec une politique qui, quand même, grosso modo, reste libérale. Il y a eu la petite exception de la stérilisation forcée, mais quand même relativement limitée. Donc, en fait, à l'échelle d'un grand pays, c'est impossible.
Mais d'ailleurs, la Chine est en train de revenir en arrière aujourd'hui. Non, oui, la politique de l'enfant unique s'est terminée maintenant.
Oui, ils reviennent en arrière pour d'autres raisons. C'est pour ils se rendent compte du potentiel de vieillissement de la population et ça les inquiète. Ça les inquiète d'autant plus que c'est un pays qui n'a pas un système de protection sociale élaboré comme on peut avoir en Europe. Donc, il faut en même temps gérer la croissance de la population, gérer la croissance du nombre de personnes âgées et mettre en place un système de protection sociale plus efficace.
Mais alors, de toute façon, est-ce que le lien va de soi entre population grandissante et ressources planétaires? Est-ce que vraiment on peut tirer un trait entre A et B?
Non, on ne peut pas tirer un trait entre A et B. On peut penser que quand même la pression, la croissance de la population, surtout la vitesse. Il faut quand même bien se rendre compte que les derniers accroissements se sont effectués en une douzaine d'années, quoi. De 15 ans, puis 12 ans. Donc en 12 ans, on a rajouté un milliard d'habitants.
Si on donne un chiffre, voilà, par rapport à 1992, par exemple, quand on a déjà parlé, plus de milliards sur la population mondiale, ça fait beaucoup de monde.
Bah oui, ça fait beaucoup. Et surtout qu'on a mis quand même des millions d'années ou des milliers, suivant comment on fait dater l'origine, pour atteindre le premier milliard. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Après, l'idée que le ralentissement de la croissance, ou en tout cas qu'une baisse de la natalité est la solution au problème de l'environnement, non, ça c'est totalement faux.
Pourquoi on peut être aussi clair et aussi limpide que vous l'êtes?
Non, c'est totalement faux. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une pression démographique qui s'exerce, et ça, il ne faut pas la sous-estimer. Mais je veux dire, si la population était stationnaire, compte tenu des modes de vie qu'on a dans les pays développés, et modes de vie auxquels aspirent les populations des pays moins avancés, ce mode de vie, en particulier la rupture du lien avec la nature, c'est-à-dire la grande difficulté à recycler les biens, est une grosse source de dégradation de la planète.
Parce que ce qui est clair, et ça pour le coup tout le monde peut le voir, c'est que les pays les plus peuplés, ceux qui font le plus d'enfants, sont souvent les plus pauvres, mais ce ne sont pas forcément les plus brûleurs en ressources naturelles, non?
Oui. Alors, tout l'enjeu, évidemment, c'est de dire, si on veut ralentir la croissance de la population, parce qu'au fond, tout le monde est d'accord sur le fait que ce serait mieux que ça se stabilise. Et pour que ça se stabilise, il faut que ça se stabilise dans tous les pays. Pour le faire, il faut que les conditions de vie des populations s'améliorent. elles ne se feront pas d'elles-mêmes. Il peut y avoir de l'éducation, il peut y avoir tout ce qu'on veut, mais si les gens n'ont pas une amélioration de leur niveau de vie, ils n'ont pas de raison de changer leur standard. Ils sont, pour beaucoup les plus pauvres, sont enfermés dans des cercles vicieux de la pauvreté. Les enfants ne vont pas à l'école ou très peu, ils travaillent très jeunes, donc le coût de l'enfant n'est pas très élevé. Donc pour qu'il y ait une rupture, pour qu'ils changent de comportement, il faut vraiment qu'il y ait une amélioration de leur sort. Et ça, c'est. Et alors, parallèlement, il faut que cette amélioration de leur sort ne se traduise pas par une surconsommation sur le modèle que nous, on présente en exemple.
Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que. Pardon pour la comparaison un peu facile, mais 7 enfants en Afrique brûlent moins de ressources qu'un seul aux États-Unis. Donc, au final, si on suit ce raisonnement-là, c'est plutôt dans nos pays riches à nous qu'il faudrait faire tomber la démographie, en fait.
Bah oui, oui, c'était Yves Cochet qui avait dit un enfant supplémentaire, enfin, un troisième enfant. Correspond à je ne sais plus combien, 750 allers-retours Paris-New York. Alors, on ne s'est pas dit, est-ce qu'il faut faire des allers-retours Paris-New York ? On s'est dit, il ne faut pas avoir de troisième enfant. Mais la question, c'est que ce ne sont pas des choses indépendantes. Je veux dire, une personne, elle est multipliée, si je peux dire, par son mode de vie. Une personne qui naît. Donc, si elle naît dans un pays pauvre, elle va être multipliée par un mode de vie pauvre qui va dégrader. À l'échelle locale, il y aura des dégradations.
Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple ? Est-ce qu'on peut dire, voilà, un Nigérian, voilà ce qu'il génère par rapport à un Américain, c'est 7, 10, 70 fois plus ?
Oui, oui, ben ça a été fait un peu avec l'empreinte écologique. Vous savez, c'est l'idée de la superficie que chacun consomme compte tenu de son mode de vie. Oui, c'est de cet ordre. Mais même la comparaison n'a pas vraiment de sens parce que beaucoup de populations vivent de manière très, très locale, donc ont une pollution, des formes de pollution très locales qui peuvent être tout à fait préjudiciables, mais qui ne vont pas avoir une influence nécessairement sur la planète. Et juste peut-être un point, si on regarde le cas du Brésil, il y a une croissance de la population importante au Brésil, mais bien sûr, il y a l'utilisation des sols, il y a des partages des sols, il y a pâturage, etc. Mais en même temps, la déforestation, elle est très largement liée aux investissements économiques qui sont faits en Amazonie. Donc, la stabilisation de la population mondiale, moi, je pense qu'elle est nécessaire à terme. Et ce terme, ça peut être 30 ans, 40 ans, mais elle n'est pas suffisante.
Ça veut dire qu'il y a un seuil maxi, quand même. Quand je vous entends, vous dites dans 30 ans, dans 40 ans, donc quand on sera effectivement autour de 10 milliards,
oui, bah oui.
On connaît un seuil maxi, ça existe, ça, ou pas ?
Non, parce qu'on a pas mal raisonné sur est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards, 12 milliards d'habitants, etc. Moi, je pense que c'est un problème partiel. Bien sûr qu'il faut pouvoir, s'ils sont là. Mais c'est pas, les gens, ils veulent pas juste être nourris, ils veulent être logés, ils veulent être transportés. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent et ils vont pas juste se contenter de la ration alimentaire qu'on va définir comme étant nécessaire à la survie. Donc, l'effectif maximal, tous les chiffres ont été avancés, mais disons que 10-12, on se dit que c'est...
10-12 milliards.
Oui, que c'est gérable, compte tenu du fait que la population est très inégalement répartie sur la planète. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable vraiment ? Alors, le scénario de décroissance de la population qui a été avancé par certains, on peut le défendre, je veux dire. Mais ça veut dire qu'il y aura un vieillissement considérable de la population dans la phase intermédiaire.
Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle la Chine a arrêté sa politique nataliste.
Et le Japon fait une expérience directe de dépopulation, en fait, sans qu'il y ait de politique volontariste.
Alors, et pardon de vous dire ça à vous, le démographe, mais c'est vrai que toutes les études qui ont été faites avant, et même si on commence à Malthus et tout au long de ces dernières années, y compris dans les années 60, où c'était, pardonnez-moi, un peu la mode. Tout le monde s'est trompé, en fait, dans ces calculs, non, du nombre de populations et d'états même de la faim dans le monde, des besoins du monde, etc. On s'est trompé sur ces calculs-là.
Pas tellement. Par exemple, l'effectif de 6 milliards d'habitants, on a commencé à en parler dans les années 40. Non, je pense pas tellement. Après, sur les maxima, combien la Terre peut supporter de gens, ça c'est très difficile, puisque ça dépend tellement du mode de vie. Si on vit juste avec la ration d'un Chinois, on peut... Enfin, d'un Chinois d'autrefois, pas d'un Chinois d'aujourd'hui.
Ouais.
On peut avoir une très grande population. Si on vit avec la ration alimentaire d'un urbain des États-Unis ou d'Europe, on atteint un chiffre très différent. Mais ceci étant, vous parliez de Malthus, on l'a réédité d'ailleurs à cabinet cette année. Et c'est vraiment un texte qui mérite d'être lu, parce qu'on lui fait dire beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est un peu le Montesquieu de la population. Il faut quand même le connaître.
Remettre Malthus à la place qu'il mérite. Voilà. Vous disiez effectivement, et je comprends bien ce que ça veut dire, s'il n'y a pas de développement, il ne peut pas y avoir de natalité en baisse. Et malgré tout, quel est le poids de la tradition dans le fait de faire beaucoup d'enfants dans certains endroits et certains pays? En gros, comment ça se partage? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres facteurs qui jouent? Donc en gros, est-ce que si tous ces gens-là étaient mieux éduqués, avaient plus à manger, est-ce que vraiment ils feraient moins d'enfants? C'est quoi le poids de la tradition
là-dedans? Oui, je crois. La tradition, si on peut regarder par rapport à la religion, simplement, si on regarde en Inde la religion à l'échelle du pays tout entier, on voit une différence assez nette entre les hindous et les musulmans. Mais quand on le regarde dans un état particulier, le Kerala, qui est très éduqué, finalement, les différences disparaissent, et avec les chrétiens aussi. Donc, quand on cherche à avoir un facteur clé, on ne le trouve pas vraiment. Mmh. Moi, je pense qu'il faut que ça passe beaucoup par les enfants et par les investissements dans les enfants. Il y a deux cas de figure, en gros. Ou on ne veut pas d'enfants parce que pour des raisons écologiques, etc. Ou on surinvestit sur ses enfants en voulant qu'ils aillent le plus loin possible à l'école. Et on le voit en Corée du Sud, par exemple. Il y a une très basse fécondité en Corée du Sud, mais il y a un investissement sur les enfants considérable. Donc là, les gens sentent le coût de l'enfant. Ils n'en voient plus le fait que finalement, c'est un peu anodin d'avoir une famille nombreuse. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement, disons qu'on arrive à une situation de choix. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont pauvres, ils effectuent pas des choix. Ils subissent la vie au quotidien, puis c'est tout.
Et au fond, c'est Pierre Rabhi qui a raison quand il dit que cette alerte des 15 000, c'est pas une alerte climatique, c'est une alerte sociale, finalement. Le problème, c'est l'équité. Le problème, c'est d'arriver à partager.
Oui, tout à fait. Oui, ça. De toute façon, je pense pas qu'on puisse séparer. Enfin, pour moi, on peut pas séparer les questions d'environnement des questions de développement. Et c'est vrai qu'il y a des inégalités aujourd'hui. On peut pas bloquer tous les compteurs aujourd'hui en disant on reste dans la situation actuelle. Il faut nécessairement avoir une plus grande égalité à l'échelle de la planète.
Voilà, en attendant, puisqu'on continue à grandir, et vous dites quoi? Combien vous m'avez dit déjà? 11, 12, ça ira encore? Donc on a encore une petite marge.
Je pense qu'il faudra que ça aille. La question est un peu différente.
Il faudra que ça aille. Merci beaucoup, Jacques Béron, démographe.
Merci.
Directeur de recherche émérite à l'INED. Merci de votre présence dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde. En Palestine, vous comprendrez combien c'est compliqué d'être un village sous contrôle israélien, mais financé par l'Europe. L'actu en série, tiens, l'environnement, on en parlait. L'environnement après les COP, 21, 22, 23, avec vous, Sandy Dauphin. On va parler, non pas de hauteur, mais de couleur du Mont-Blanc ce soir.
Oui, on va parler du réchauffement climatique dans le Mont-Blanc qui verdit, donc. Et puis, on s'intéressera à ses effets sur les bouquetins, les lapins ou encore les myrtilles.
Eh ben, tout de suite, la revue de presse des correspondants de France Inter est à Moscou et à Rome ce soir. Et en attendant, voici les clashs. Les Clash, Police on My Back sur France Inter. Power Hit Radio. Magique
FM. Terra de la Tula.
Desservi Prispo. 60 Minutes.
Florence Paracolos est là avec l'actualité internationale cachée dans les recoins de l'info. On reste en Europe pour commencer, Florence, dans une région où la charia fait officiellement office de droit de la famille.
Et cette région se trouve dans l'Union européenne, en Grèce. C'est la région de Thrace, tout au bout du pays, à la frontière avec la Turquie. La Thrace, occupée par les Ottomans pendant 400 ans, elle a fini par se retrouver à l'intérieur des frontières grecques. À partir de 1923, le traité de Lausanne, à l'époque, va régir la séparation entre Grèce et Turquie. Il va y avoir des transferts massifs de population. Grecs et Turcs se renvoient des centaines de milliers de ressortissants, à deux exceptions. Les Grecs ont le droit de rester à Istanbul et les musulmans en Thrace occidentale où ils pourront conserver leurs coutumes, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Trois mouftis sont donc préposés au jugement des affaires familiales, mais voilà qui va peut-être changer. C'était la semaine dernière, Alexis Tsipras, en visite en Thrace, annonce que la charia doit devenir facultative, qu'il va y avoir une réforme de la loi. Le régime actuel ne nous fait pas honneur en tant que pays de l'Union européenne, a dit le Premier ministre grec. Plus de 100 000 personnes sont soumises aujourd'hui encore à la charia. Alors c'est pas la charia saoudienne, pas de lapidation, pas de main coupée, pas de polygamie, mais des mariages de mineurs et des dispositions qui favorisent les hommes en matière de divorce et d'héritage. Le cas d'une veuve sera examiné par la Cour européenne des droits de l'homme dans 15 jours. Son mari lui a légué tous ses biens, mais la charia n'autorise pas les testaments. Sa belle-famille veut donc récupérer l'argent. Eh bien, la justice grecque a donné tort à la veuve, la renvoyant devant le moufti. La Grèce risque bien d'être condamnée à Strasbourg, Fabienne.
Allez, on file en Chine maintenant.
Nous sommes à un mariage. Le mariage, la famille, au centre de l'organisation sociale en Chine, si fondamentaux que Mao pénalisait l'adultère et les relations homosexuelles. Il a fallu attendre 1997 avant qu'elle soit autorisée, 2001 avant que l'homosexualité cesse officiellement d'être considérée comme une maladie mentale. Mais les esprits, on le sait, ne changent pas du jour au lendemain. Des hôpitaux proposent toujours des traitements assez barbares censés guérir l'orientation sexuelle et dire sa préférence dans sa famille reste tabou, d'autant qu'au pays de l'enfant unique, où les retraites n'existent quasiment pas, on compte énormément sur sa descendance pour assumer ses vieux jours. Alors comment vivre sa vie dans ces conditions? Certains se marient, vivent des doubles vies dans la douleur. D'autres commencent à profiter de nouveaux sites sur Internet, des sites qui proposent à des gays et à des lesbiennes de se rencontrer et de se marier, des mariages blancs qui servent à donner le change aux parents des époux pendant les visites à la famille. Le plus gros de ces sites, chinagayless.com, revendique 400 000 utilisateurs et déjà 50 000 mariages en seulement quelques années.
Allez, l'Australie pour finir, qui remercie la France aujourd'hui, Florence.
Bah oui, les Australiens sont rassurés, il n'y aura pas d'éoliennes à Bulcourt dans le nord de la France. Alors vous allez me demander ce que les Australiens ont à faire de ce projet français.
Je vous le demande.
Voilà la réponse. 10 000 soldats australiens sont morts à Bulcourt en 1917, des milliers de Britanniques et tout autant d'Allemands ont perdu la vie sur ce champ de bataille de la Grande Guerre, mais seuls les Australiens se sont émus d'un projet d'Engie, 6 éoliennes à planter sur un lieu de mémoire pour les Australiens. Sharon Dusting y a perdu 3 de ses aïeux. Je me suis sentie très concernée quand j'ai appris pour ce projet à Bulcourt. Là-bas, la terre contient le souvenir de milliers de nos soldats qui n'ont pas été retrouvés. Pour eux, c'est un linceul. C'est une terre sacrée. Donc c'est vraiment affreux pour les familles de ces soldats de penser que cette terre va être retournée et perdre son caractère sacré. Voilà, le gouvernement australien était donc à la manœuvre. Ça a été une véritable affaire diplomatique. On n'en a pas tellement parlé chez nous, beaucoup chez eux. Et Engie, l'électricien, a fini aujourd'hui par renoncer à son projet, ce que Canberra a jugé très touchant.
Merci beaucoup Florence Paracuelo, sous les radars. Et nous sommes en Palestine.
France Inter. Le 18-20.
Nous sommes donc en Palestine, dans ce village qui essaie désespérément de vivre comme tout le monde, c'est-à-dire à minima avec l'eau et l'électricité. Ce village s'appelle Joubet al-Bid. Il n'a pas accès à l'eau, l'électricité il l'a, mais depuis à peine un an grâce à des panneaux solaires. Joubet al-Bid se bat pour son développement, mais il est freiné par l'occupation israélienne qui tente de bloquer les soutiens qui, eux, sont apportés par l'Europe et par des ONG. Bonsoir à vous, Étienne Monin.
Bonsoir, Fabienne.
Étienne, Joubet al-Bid, c'est l'histoire de deux volontés en fait qui s'affrontent.
celle des femmes de la communauté qui ont pris les choses en main depuis quelques années et celle de l'armée israélienne qui contrôle le secteur sur lequel ce village est implanté. C'est une illustration assez limpide de la façon dont l'occupation tente de geler le développement de certains villages palestiniens.
Et nous y allons donc, nous y allons normalement en Palestine, si tout va bien. J'aimerais bien qu'on me fasse juste un petit signe pour m'expliquer que on va pouvoir aller écouter le reportage d'Étienne Monin. Et bien si on peut pas écouter le reportage d'Étienne Monin, c'est pas grave, on va écouter Strobelit, le nouveau single extrait du cinquième album de Godzilla, et on se remet sur nos pieds dans 2 minutes. Allez, c'est parti.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Allez, c'est donc Strobelit, le nouveau single extrait du cinquième album de Gorillaz. Pardon. On y retourne ? Alors on y retourne, on était parti pour la Palestine. Et bien nous allons en Palestine, dans ce fameux village dont je vous parlais à l'instant, qui s'appelle Jouvet El Did. Un village qui se bat pour son développement, mais qui est freiné par l'occupation israélienne, qui tente de bloquer les soutiens qui, eux, sont apportés par l'Europe et les ONG. C'est pour ça que c'est si compliqué, le reportage d'Étienne Monin. Tout de suite d'un journal.
À Jouvet El Did, la supérette est l'un des trésors du village. Elle existe depuis 2 ans. Elle est installée dans le garage de Amna Daoud. Elle offre une forme d'autonomie aux habitants.
Ce qu'on a de plus important dans le magasin, ce sont les produits de nettoyage et les produits de base pour cuisiner. Le riz, l'huile, le sucre, le sel et les haricots.
Jouvet El Did est un village bédouin construit en mur de briques au sommet d'une colline élevée comme une montagne russe. C'est un petit village dans lequel les initiatives personnelles se sont multipliées pour tenter de sortir du sous-développement. Afé Alouache a créé son emploi. Elle vend des fournitures scolaires.
C'est une source de revenus pour nous. J'ai des filles qui sont à l'université, qui ont besoin d'être soutenues financièrement. Mon mari ne peut pas toujours rapporter de l'argent. Donc ce magasin, c'est la part que j'apporte moi.
La force vitale de Djoubet al-Dib vient des femmes. Dans cette société patriarcale, elles ont habilement pris les rênes il y a 2 ans en créant l'association des femmes. Depuis, elles ont appris à faire de l'artisanat, à gérer des projets de développement, soutenus et formés, entre autres par une organisation palestinienne présidée par Mustapha Barghouti, figure du monde politique.
Une grande partie de notre travail concerne les femmes et l'égalité des sexes. Quand on fait un travail sur le développement, spécialement dans la zone C, qui est administrée par l'armée israélienne, on ne s'arrête pas au développement. L'objectif principal, c'est de rendre les femmes responsables, de faire en sorte qu'elles gèrent, qu'elles soient en mesure de participer aux prises de décision et qu'elles soient capables de trouver des ressources pour soutenir la communauté.
Djoubet al-Dib sort à peine du sous-développement. L'électricité est arrivée il y a 1 an. Elle a modifié le rapport social. Le courant apporte une forme de dignité et un moyen de développement, explique que Fadi Al-Wash, fondatrice de l'association des femmes.
Avant, c'était terriblement difficile de trouver une épouse pour nos jeunes dans ces conditions. Les femmes n'ont pas envie de venir dans un endroit comme cela où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Les femmes ici se sentent dévalorisées par rapport aux autres. Elles se disent, pourquoi me marier à un garçon qui va me conduire dans un endroit sans électricité et sans eau? Les familles aussi n'acceptent pas. Donc, nos enfants ont eu du mal à trouver des femmes avec lesquelles se marier.
Mais le village n'est pas connecté au réseau. Il est sous administration militaire israélienne. Il n'a pas obtenu d'autorisation. L'électricité vient de panneaux solaires installés par Cometmi, une organisation israélo-palestinienne qui tente d'apporter de l'électricité aux communautés palestiniennes restées en marge. Cela représente un certain nombre d'Itamar Cohen de Cometmi et cela permet d'ancrer ces communautés.
Depuis 2009, nous servons jusqu'à aujourd'hui que 50 villages. On voit, grâce à beaucoup d'acteurs, que les gens rentrent à ces villages. Il a pris beaucoup de temps pour beaucoup de gens de comprendre jusqu'à quel point ces communautés-là, qui étaient complètement oubliées par tout le monde. Parce que sans eux, s'ils ne sont pas là, demain, il y aura une autre colonie sur l'endroit. Et en fait, le fait qu'il reste là-bas, ça a une importance immense pour le futur de ce région.
Pour son développement, Djoubet al-Dib a eu le soutien de plusieurs bonnes fées, plusieurs pays européens qui ont investi dans les panneaux solaires et dans l'école. Ils agissent au nom du droit humanitaire en violation du droit israélien, estime le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nachshon.
Toute intervention, alors qu'elle soit européenne ou bien émanant d'un organisme international, doit être basée aussi sur la loi israélienne. À savoir, avant qu'un tel projet soit réalisé, il faut que tous les permis nécessaires soient obtenus.
Cet été, les Israéliens ont saisi les panneaux solaires. Ils ont démonté l'école juste avant la rentrée. Depuis, tout a été remis sur pied, mais ces installations essentielles sont maintenant menacées. La volonté de développement des femmes de Djoubet al-Dib se heurte aux freins mis en place par l'occupation, explique le numéro 2 de l'ONU dans la région, Robert Piper.
C'est juste compliqué de savoir quelles sont les règles. Israël dit, vous avez besoin d'un plan pour avoir un permis de construire. Donc tout le monde s'y met et dépose un plan de développement. Ces plans suivent les standards internationaux, mais ensuite, il ne se passe rien. Donc ce qui arrive parfois, c'est que beaucoup de Palestiniens construisent sans permis de construire. Parce qu'ils n'obtiennent tout simplement pas d'autorisation pour leur plan, il y a une part minuscule, je crois, moins de 3% des demandes de permis de construire qui ont été approuvées ces dernières années.
En 2016, Israël a détruit pour plus d'un demi-million d'euros de matériel en Palestine, dans la zone sous contrôle militaire. Pour la première fois, des pays qui ont investi, dont la France, demandent une compensation financière. C'est un moyen pour essayer de briser le cycle des destructions et des saisies. Djoubet al-Dib est un exemple parmi d'autres, placé en bordure de plusieurs colonies, dont celle dans laquelle habite le ministre israélien de la Défense.
Étienne Monin, et l'histoire de ce village palestinien dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le mardi, c'est le pire et le meilleur de la planète, les bonnes ou mauvaises idées. Quand on parle d'environnement, bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Sandy, ce soir, vous nous annoncez comme ça, boum, que le Mont Blanc verdit. C'est l'un des effets du réchauffement climatique, moins de neige, donc moins de glace, donc couverture végétale plus haut, ça paraît logique. En tout cas, c'est ce que nous dit le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, qui a même été primé pour ça, et qui mesure en fait l'impact du changement climatique sur la faune et sur la flore du Mont Blanc.
Oui, est-ce qu'on va continuer à faire de la confiture aux myrtilles dans les Alpes? Les bouquetins vont-ils mettre bas à la même période de l'année? Ou encore, les épicéas seront-ils dévorés par les parasites? Voilà le genre de questions auxquelles ces chercheurs tentent de répondre. Cette ONG est partie d'une réflexion. Comment se fait-il que les scientifiques observent depuis les années 60 les effets du réchauffement climatique en montagne et qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que leur message soit entendu? Eh bien, parce que leur travail n'est pas assez accessible. Il faut le faire sortir des labos, associer le grand public à la collecte des données sur le terrain. Vous êtes randonneur, hop, vous notez dans quel coin du massif vous avez repéré une marmotte. Toutes les données collectées servent à alimenter un atlas du Mont Blanc, un site internet qui fait référence. En plus, on y trouve des photos rigolotes d'animaux prises la nuit à leur insu. Des bénévoles, des chercheurs et puis une soixantaine de capteurs, des capteurs désormais entretenus par des agents de l'opérateur de téléphonie mobile Orange, au même titre que les antennes relais.
Et donc là, on voit que la taille du Mont Blanc, en fait, n'est plus vraiment un critère le plus pertinent, en tout cas pas le critère le plus pertinent pour comprendre le réchauffement climatique.
Oui, tous les deux ans, la question fatidique, combien mesure le toit de l'Europe? Cette année, les géomètres sont formels, le 14 septembre 2017, le Mont Blanc culminait à 4 808 mètres et 72 centimètres. En deux ans, il n'a perdu qu'un petit centimètre. Et donc, vous allez me dire...
Eh ben, je vais vous dire, c'est pas beaucoup. Je croyais qu'il était victime du réchauffement climatique.
Eh oui, sauf que la hauteur du Mont Blanc ne varie pas avec le réchauffement climatique. L'épaisseur de la glace tout en haut ne bouge pas à très haute altitude. C'est vrai que ça chauffe en montagne, hein, et même plus qu'ailleurs, plus 2 degrés depuis l'époque pré-industrielle. Mais l'impact est surtout visible sous la barre des 3 800-3 500 mètres. Donc, le symptôme le plus spectaculaire, vous le connaissez, ce sont les glaciers qui reculent, la cure d'amincissement de la mer de glace dans la vallée de Chamonix, par exemple. Et puis, mauvaise nouvelle pour les skieurs, dans le Mont Blanc, en moyenne montagne, là où se concentrent la plupart des stations de ski, depuis 50 ans, il y a 25 jours d'enneigement en moins.
Et parmi les conséquences du réchauffement, on apprend aussi que les crapauds communs pondent plus tôt dans l'année.
Oui, ou bien que les oiseaux migrent désormais en avance, ou que la forêt remonte en moyenne de 30 mètres par décennie. Le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude tente de comprendre toutes ces évolutions. Certains animaux et plantes vont très bien s'adapter, d'autres vont migrer. Et puis pour d'autres, eh bien, on ne sait pas trop encore. Prenez l'exemple du lièvre variable. Il est blanc l'hiver, il devient brun quand
au printemps.
Sauf que la couleur de sa fourrure dépend des jours qui s'allongent. Si le printemps est précoce, que la neige fond et qu'il se retrouve tout blanc dans un milieu vert, que va-t-il lui arriver? Pas terrible pour échapper à ses prédateurs.
Eh ben écoutez, le pauvre lièvre variable. Merci beaucoup, Sandy Dauphin, pour Un jour dans le monde sur France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
Allez, le rendez-vous de la presse étrangère, sous-titré par les correspondants de France Inter. On commence en Russie. Bonsoir Moscou, bonsoir à vous Claude Brouillot.
Bonsoir.
Claude, on commence avec vous, avec cette histoire qui a déchaîné la presse et les réseaux sociaux chez vous. C'est celle d'un jeune homme qui a été invité récemment avec ses camarades de classe au Bundestag, donc à Berlin, et qui a choisi de raconter, c'est là que les mauvaises idées commencent, le quotidien d'un jeune soldat de la Wehrmacht à Stalingrad. Dans sa tête, c'était une démarche humaniste et ça s'est en fait très mal passé.
Oui, traître à la patrie, écrit l'un, je vais l'égorger de mes propres mains, rajoute un autre. Comment peut-on avoir de la compassion pour ces animaux de nazis, renchérit un troisième. Pendant 3 jours, ça a été un véritable déferlement sur les réseaux sociaux ici, car on ne touche pas impunément aux martyrs du peuple russe, 26 millions de morts pendant la grande guerre patriotique, comme on l'appelle ici la deuxième guerre mondiale. Mais qu'a dit de si terrible ce jeune Nikolai, 16 ans, devant le Bundestag, lui qui s'est intéressé dans le cadre d'un travail pédagogique, donc, à la vie d'un jeune soldat allemand de 21 ans pendant la bataille de Stalingrad.
La biographie de Jörg, qui représente mon travail dans le projet, m'a beaucoup touché. J'ai visité le tombeau des soldats allemands de la Wehrmacht près de Tcheliabinsk et j'ai été troublé. J'ai vu des tombes de personnes mortes innocemment, parmi lesquelles beaucoup voulaient une vie tranquille et pas la guerre.
Voilà, compliqué, hein. Et 72 ans après, Claude, c'est peut-être ça la morale de l'histoire en Russie, ce genre de sentiment qui vient notamment des jeunes Russes est très difficile à accepter.
Oui, c'est difficile. Si on prend par exemple le seul souvenir des massacres nazis dans tout l'ouest de l'Union soviétique à l'époque, eh bien, l'horreur de ces exactions-là se transmet de génération en génération, d'autant que derrière, il y a souvent aussi l'exaltation de la résistance, voire pour certains, l'occasion rêvée de flatter la fibre patriotique, comme l'incontournable leader nationaliste Vladimir Jirinovski sur le plateau de Russia 1 dernièrement.
Notre ambassadeur est coupable. Il fallait examiner avant ce que les lycéens allaient dire au Bundestag. Les Allemands ont eu honte de l'écouter. Ils ont conscience de leur faute devant la Russie. Des millions de Russes sont morts. Les soldats allemands sont coupables. C'était des barbares qui brûlaient tout sur leur chemin.
Alors Claude, comment elle se termine cette histoire au final ?
Alors les critiques se poursuivent encore sur les réseaux sociaux. Il est question maintenant de mener une inspection du lycée où étudie le jeune Nicolas afin d'examiner notamment la façon dont l'histoire y est enseignée. Finalement, il a fallu l'intervention du service de presse du Kremlin qui a marqué son désaccord avec, je cite, ses attaques exaltées contre le jeune Nicolas, de retour aujourd'hui au pays avec ses camarades et qui doit maintenant avec sa famille faire face aux menaces.
Claude Brouillot en Russie, merci beaucoup et bonsoir Rome, bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, comme ça les Italiens ont mal à l'Europe alors ?
Oui, absolument. La décision d'attribuer l'Agence européenne du médicament non pas à Milan, mais à Amsterdam passe très mal ici. Cela a été décidé hier. Milan était arrivé en tête au premier et deuxième tour. Le troisième tour s'est réglé par tirage au sort. Et donc l'Italie a perdu une candidature solide, défaite de cette façon. Quelle farce, a commenté le président du conseil Gentiloni sur Twitter. Gentiloni connu pour ne jamais sortir de ses gonds. Pour Il Corriere della Sera, il s'agit d'une procédure surréaliste et absurde. Pour Il Sole 24 heures et Quotidien économique, cette manière de faire ne fait pas du bien à l'image de l'Europe. Et qui surfe sur cette info, évidemment, sans surprise, les eurosceptiques de la Ligue du Nord. Le leader Matteo Salvini ironise. D'un côté, l'Europe nous refourgue des contraintes, des pesticides et des migrants. De l'autre, elle nous enlève des emplois en procédant par tirage au sort. Vous voyez un peu l'ambiance.
Ouais, charmant. La presse italienne, en tout cas Mathilde, n'a pas franchement le moral, alors que les élections se profilent.
Oui, au printemps prochain, les élections, effectivement, à la lecture du premier hebdomadaire italien, l'Espresso, on comprend bien qu'il y a un malaise. L'Espresso titre cette semaine, Indietro Popolo, en clair, marche arrière toute. On est loin du Avanti Popolo, des lendemains qui chantent. L'Espresso écrit, les leaders se querellent, les intellectuels se défilent et les électeurs de gauche sont rattrapés par le désenchantement et la tentation de ne plus voter. La démocratie est malade, surenchérit la Repubblica aujourd'hui. Après le vote de dimanche à Ostie, sur le littoral romain où le parti des 5 étoiles l'a emporté, mais avec une abstention record, hein, un électeur sur 3 seulement est allé voter. Ostie, écrire la Repubblica et la photographie de ce que pourrait devenir l'Italie, un pays où le malaise social grandit et où en parallèle la crédibilité de la politique s'effondre.
Et puis Mathilde, il n'y a même pas le foot pour remonter le moral des troupes. Hein.
Alors là non, et on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein, Fabien, l'Italie ne jouera pas le mondial en Russie, on l'a assez dit cet été, éliminer l'Italie. Alors elle se cherche un nouveau sélectionneur national, et puis aussi maintenant un nouveau président de la Fédération de football, parce que Carlo Tavecchio a démissionné lors d'une conférence de presse surchauffée hier, vous entendez en fond.
Oui, ils ont l'air
voilà, Tavecchio très en colère, qui a tenté de défendre son bilan.
On doit parler français, monsieur.
Voilà, on doit parler français. Il s'est mis à l'improviste, à parler français, à gesticuler dans tous les sens. Tavecchio, c'était n'importe quoi. C'était le craquage de la semaine devant les caméras.
Allez, bah écoutez, on l'a bien vu, bien entendu, en tout cas, grâce à vous. Merci beaucoup, Mathilde, et vous revenez quand vous voulez dans Un jour dans le monde. À 18h56, l'édito du journal Le Monde avec Sylvie Kaufmann. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Fabienne.
Décidément, donc, ça fait 6 semaines maintenant que le fameux scandale Weinstein a éclaté. Et 6 semaines après, l'affaire continue à faire des ravages. Pas fini.
Oui Fabienne, à ce stade-là, ce n'est plus une vague, ce n'est même plus une déferlante, c'est une lame de fond. Elle est partie des États-Unis, elle a rapidement traversé l'Atlantique. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en grande partie grâce aux réseaux sociaux, le phénomène de dénonciation du harcèlement sexuel est quasiment planétaire. Et donc, si vous le voulez bien, on va faire un petit tour du monde de cette onde de choc de l'affaire Weinstein.
Alors, aux États-Unis d'abord.
Eh bien, aux États-Unis, il ne se passe pas un jour sans qu'une tête ne tombe, sans qu'une personnalité connue ne soit accusée, au mieux de comportements déplacés, au pire de harcèlement, voire de viol. Cela concerne Hollywood, bien sûr, et le monde du spectacle, mais aussi le monde politique et celui des médias. J'ai relevé cette nuit sur Twitter que vous étiez aussi désolée que moi, Fabienne, en apprenant
terriblement
que le légendaire Charlie Rose, le roi du talk show, était à son tour suspendu par toutes les
licencié.
Chaînes de télévision.
Ça y est, depuis 5 minutes.
Ah, voilà. Et maintenant licencié. Après la publication des témoignages de 8 femmes contre lui. Et à Washington, l'onde de choc atteint maintenant le Parti démocrate, dont un sénateur très populaire, Al Franken, est lui aussi accusé. Et c'est là qu'on se remet à parler des frasques de Bill Clinton, beaucoup plus que de celles de Donald Trump, étrangement.
Et alors, et Harvey Weinstein, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il devient ?
Curieusement, bien qu'accusé de dizaines de viols et d'agressions sexuelles, ce producteur de cinéma, prédateur de cinéma, on a envie de dire, est encore en liberté, sans doute plus pour très longtemps, car plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Comme Kevin Spacey, il s'est enfermé un moment dans un établissement spécialisé dans le traitement des addictions en Arizona. Pour l'instant, il a tout perdu, sa femme, sa société de production, ses décorations, et il se cache.
Et alors, de ce côté-ci de l'Atlantique, de notre côté, Sylvie, oui, on en est où ?
Eh bien, en Europe, le tableau est contrasté. En France, la parole s'est libérée, comme on dit, mais les têtes ne tombent pas. Disons que le harceleur français résiste assez bien dans les milieux du cinéma comme en politique. Ça résiste aussi bien en Italie où Silvio Berlusconi, le roi du bunga bunga, est de retour sur le devant de la scène politique. En revanche, dans l'Europe du Nord protestante, les choses sont très différentes. En Grande-Bretagne, on compte déjà 7 démissions au gouvernement et au Parlement. En Scandinavie, les dénonciations ont atteint des proportions dantesques, tout particulièrement en Suède. Oui, en Suède, le pays que l'on pensait le mieux policé en termes de relations entre hommes et femmes. Eh bien, détrompez-vous, ces jours-ci, les journaux suédois regorgent de lettres et de pétitions d'artistes, actrices, musiciennes, intermittents du spectacle, qui racontent leurs expériences d'agression sexuelle au travail. Un jour, ce sont 1993 femmes de l'industrie musicale qui accusent et promettent de ne plus se taire. Un autre, 703 actrices ou encore 6000, oui, 6000 juristes et employés du monde judiciaire.
Eh bien, dis donc, mais est-ce qu'au moins les mentalités changent ?
C'est la vraie question, vous avez raison, et je crains, Fabienne, de ne pas avoir encore la réponse. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le phénomène, cette fois, commence à travailler les sociétés en profondeur. Il est en train de déborder vers l'Asie et même vers une partie du monde musulman où de jeunes femmes portent ce combat. Donc oui, on peut espérer que les choses évoluent vraiment, mais à une condition, surtout, ne pas relâcher la pression.
Ne rien lâcher. Merci beaucoup Sylvie Kaufmann du journal Le Monde. Le 18-20 continue sur France Inter avec le téléphone sonne. On parle de la colère des maires ce soir. Et vous, habitants de grandes, petites et moyennes villes, ça vous concerne. À tout de suite.